La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
And we're getting a picture on the TV.
Grâce aux améliorations de l'observation astronomique, c'est comme si nous pouvions voir la naissance de notre système solaire. Entretien avec Marc Chaussidon, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la formation du système solaire à l'Institut de physique du Globe de Paris. Propos recueillis par Fabrice Nico.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
D'où viennent nos connaissances sur la formation du système solaire?
Avant tout, des météorites, en particulier des chondrites. Ce sont les plus anciennes et les plus abondantes. Elles représentent environ 80% des météorites qui tombent sur Terre. Elles se sont formées au tout début du système solaire, en agrégeant par simple collage les divers grains présents dans la nébuleuse primitive. On y trouve une impressionnante collection de minéraux présents dans le système solaire à ses débuts. Elles sont ainsi de véritables archivistes. Elles contiennent aussi des éléments plus surprenants, comme des micro-diamants forgés dans des étoiles plus anciennes que le Soleil. Ceux-ci ont été dispersés dans l'espace lorsque ces astres, arrivés en fin de vie, ont explosé. Certains se sont retrouvés dans la nébuleuse, puis dans les météorites.
Ces météorites nous renseignent sur la composition du système solaire, mais pas sur les événements qui s'y sont déroulés.
Ah, détrompez-vous! Elles témoignent également des circonstances de leur naissance. Ainsi, les chondrites doivent leur nom aux chondres, qui les composent principalement. Ce sont de petites billes de verre et de minéraux mêlés. Le verre indique qu'elles ont été chauffées, mais comme elles ne sont pas entièrement vitrifiées, elles contiennent encore des minéraux. Nous en déduisons qu'elles se sont refroidies très vite, puisqu'elles n'ont pas eu le temps de cristalliser complètement. En laboratoire, il est possible de reproduire les conditions nécessaires à la formation de telles chondres. Nous avons ainsi pu démontrer que les chondres avaient été fondus à 1800 degrés au moins. Puis ils ont été refroidis en quelques minutes seulement. Par ailleurs, nous avons déterminé qu'ils remontaient au tout début du système solaire, dans les premiers millions d'années. En rassemblant ces informations, nous en avons déduit qu'à cette époque, la nébuleuse était parcourue par de puissantes ondes de choc qui cuisaient les chondres. On peut imaginer que ces ondes provenaient par exemple de la formation du Soleil. Cela dit, leur origine reste discutée et les chondres pourraient tout aussi bien être le résultat de collisions au sein d'une première génération de planètes aujourd'hui disparues. Mais qu'importe. Cela témoigne en tous les cas des débuts chaotiques du système solaire. Le savoir par l'éléphant s'écoute sur Sirius Audio.
Toutefois, les météorites ne sont pas les seules sources d'informations.
Non, bien sûr. Nous apprenons également beaucoup des simulations numériques. C'est grâce à cet outil qu'Alessandro Morbidelli et son équipe de l'Observatoire de Nice ont pu décrire de façon si convaincante le mouvement des planètes dans le système solaire, notamment avec leur théorie de la grande virée de bord. Toutefois, Alessandro Morbidelli travaille sur des petites planètes déjà formées ou en formation. Les moyens informatiques actuels nous permettent de remonter encore plus loin dans le temps en modélisant le comportement de centaines de millions de grains afin de voir comment ils s'arrangent entre eux. Nous pouvons ainsi espérer simuler la formation des premiers objets de taille kilométrique. Enfin, nous devons aussi beaucoup à l'observation astronomique directe. Les astronomes sont désormais capables de voir directement les disques protoplanétaires autour d'étoiles jeunes et d'en déduire leur composition. C'est presque comme si nous pouvions voir notre propre système solaire en train de naître.
Études des météorites, simulations numériques et observations astronomiques, la connaissance de notre système solaire repose donc sur ces trois piliers.
Oui, mais le plus remarquable, c'est que chacune de ces disciplines a fait des progrès importants durant ces 5 à 10 dernières années. Ainsi, les composants d'une météorite peuvent désormais être datés à 100 000 ans près. Une précision capitale, car, comme nous l'avons vu, les météorites se sont formées très rapidement. Il est donc crucial de pouvoir les dater avec exactitude. Cela nous donne en quelque sorte un instantané de la composition du système solaire à un moment donné. Bien entendu, dans le domaine des simulations numériques, nous bénéficions des progrès continus des ordinateurs. Enfin, pour ce qui est de l'observation directe, la spectroscopie a connu d'énormes améliorations. Cette méthode consiste à décomposer la lumière en provenance d'une étoile ou d'un disque protoplanétaire afin d'en déterminer les composants chimiques et minéralogiques. Aujourd'hui, les astrophysiciens peuvent donner la composition d'un tel disque seulement 1 à 2 millions d'années après la naissance d'une étoile. C'est prodigieux. L'arrivée d'autres instruments, comme le radiotélescope ALMA, dont la construction vient de s'achever dans les Andes chiliennes, nous promet encore plus de précision dans les observations des systèmes planétaires en formation. L'éléphant est Sirius Audio. Vous allez voir ce que vous allez entendre.
Cela dit, on a l'impression de tout savoir sur l'histoire du système solaire.
Ah, pas du tout, il nous reste encore bien du travail. D'abord, nous devons faire converger les trois méthodes dont nous avons parlé. L'analyse des météorites, les simulations numériques et l'observation astronomique ne doivent pas aboutir à des scénarios contradictoires. Par exemple, avec des modèles anciens, dans lesquels les planètes géantes se formaient là où elles sont aujourd'hui, nous ne parvenions pas à comprendre la composition de certaines météorites qui aggloméraient des roches proches du Soleil et des glaces situées très loin. Les simulations d'Alessandro Morbidelli ont réussi à expliquer cette étrangeté en montrant comment des objets lointains avaient pu être entraînés près du Soleil par Jupiter. Voilà un exemple de convergence entre deux résultats. Mais il y en a encore d'autres à établir afin d'aboutir à un scénario compatible avec toutes les méthodes et rendant compte de chaque planète. Nous avons aussi des interrogations sur l'évolution des toutes jeunes planètes durant les premières centaines de millions d'années. Nous nous demandons par exemple si elles étaient toutes recouvertes de magma au début de leur histoire.
En quoi la découverte de planètes tournant autour d'autres étoiles, les exoplanètes, a-t-elle changé notre regard sur la naissance du système solaire ?
En 20 ans, près de 2000 planètes ont été découvertes autour d'étoiles lointaines. Et l'on compte environ 500 systèmes solaires à plusieurs planètes. Nous avons surtout été surpris par l'extrême diversité des planètes elles-mêmes. Certaines ne sont probablement qu'un immense océan, d'autres des super-terres, et par leur position dans ces systèmes solaires, on a ainsi trouvé de nombreuses géantes gazeuses très proches de leur étoile. Tous ces nouveaux mondes sont autant de défis lancés à nos modèles qui devront rendre compte non seulement de notre système solaire, mais également de la grande diversité de ceux qui peuplent la galaxie. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site Sirius.audio.